L'Odyssée géographique, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à la géographie et à la géopolitique. Si vous êtes passionné par les voyages, l'aventure, la découverte de nouvelles cultures et l'actualité internationale, soyez les bienvenus à bord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée géographique. Après la série de chroniques dédiées aux pionnières, retour aujourd'hui à l'actualité immédiate avec les élections américaines. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas disserter sur les rodomontades de Donald Trump, ni sur le recomptage des bulletins dans l'état de Géorgie. Le processus électoral suit son cours, et sauf un improbable coup de Trafalgar, Joe Biden sera bien investi 46e président des États-Unis le 20 janvier 2021. En revanche, la géographie électorale de cette élection m'intéresse davantage. Le découpage électoral, avec des cotes plutôt favorables aux démocrates et la partie centrale du pays acquise aux républicains, a été plutôt bien respecté. En revanche, une partie du territoire est passée des mains des républicains à celle des démocrates. Ils ont d'ailleurs été cruciaux dans la dernière ligne droite du dépouillement. Ces États sont situés dans le nord du territoire et sont frontaliers, pour certains, avec le Canada. Anciens bastions de l'industrie lourde et de l'industrie automobile, ces États ont connu la déprise économique à partir des années 70-80. La ceinture de fer, Rust Belt, a fait face à une grave crise économique. Après une période républicaine, cette région a aujourd'hui fait le choix de confier son destin à un démocrate. La Rust Belt, des hauts fourneaux à la résilience territoriale, c'est tout de suite dans l'Odyssée géographique. Attrapez votre chapeau et votre passeport, le voyage commence. Les contours géographiques et historiques de la Rust Belt. Initialement, la Rust Belt s'appelait la Manufacturing Belt, qui désignait le cœur industriel des États-Unis. Mettons donc le cap sur le nord-est des États-Unis pour faire connaissance avec cette ceinture de rouille. Notre voyage débute dans l'État de New York, avant de se poursuivre vers l'ouest de la Pennsylvanie, la Virginie occidentale, l'Ohio, l'Indiana, la partie sud du Michigan, puis la partie nord de l'état de l'Illinois, un état qui est cher au cœur de Barack Obama. Enfin, la Rust Belt se termine dans la partie est de l'Iowa et du Wisconsin. Les principales villes de cette ceinture de rouille sont d'ouest en est, Milwaukee, Chicago, Détroit, le berceau de l'industrie automobile américaine, mais nous y reviendrons ultérieurement, Dayton, Cincinnati, Cleveland, Pittsburgh, Buffalo, Syracuse et Scranton. Les États du Midwest ont commencé à se développer au lendemain de la guerre de sécession. Les principaux secteurs qui ont permis le décollage économique et industriel de cette région sont la sidérurgie, le textile, l'automobile et la pétrochimie. Chaque État avait sa spécialité et détenait d'une certaine manière une partie de la chaîne de valeur. C'est ce qui a permis au Midwest de gagner en force de frappe sur le plan industriel. L'acier était produit à Pittsburgh, les automobiles et les pièces détachées dans le Michigan, l'Indiana produisait des équipements agricoles, et l'Ohio était spécialisé dans la fabrication de pneus. Les premières usines se sont établies dans la partie nord du Midwest, du côté des Grands Lacs. Les Grands Lacs étaient utilisés pour le transport des matières premières et les produits finis, aussi bien pour le marché intérieur que pour l'exportation. Dans les années 1970-1980, la Manufacturing Belt est devenue la Rust Belt, donc la ceinture de rouille, comme je le disais précédemment, en raison de cette déprise industrielle. Cette déprise a été provoquée entre autres par la concurrence des pays asiatiques et l'adaptation trop tardive des techniques de fabrication au virage du numérique. Détroit, le cœur de l'industrie automobile, aujourd'hui déchu. La ville de Détroit, dans le Michigan, est l'illustration de la ville qui a profité à plein de l'ère industrielle du Midwest avant de connaître une chute vertigineuse. Détroit est le berceau de l'industrie automobile avec l'implantation de Ford. C'est en juin 1903 qu'Henry Ford crée la Ford Motor Company. La première usine de Ford à Détroit s'installe dans les bâtiments d'une ancienne fabrique de fiacre. Ford connaît son premier grand succès avec la Ford T qui sort des usines en 1908. Afin d'optimiser sa production, Ford met en place le Fordisme qui est une méthode d'organisation scientifique du travail. Le Fordisme s'appuie sur les principes suivants. La division du travail en séparant la conception de la réalisation et le séquençage des tâches. La standardisation des pièces afin de pouvoir les produire en grande série et de diminuer leurs coûts. Et l'augmentation du salaire des ouvriers. Le développement industriel de Ford s'est accompagné d'un fort développement économique et démographique de la ville de Détroit. L'expansion de l'industrie automobile a drainé un fort afflux de population pour venir travailler dans ces usines. En peu de temps, Détroit est devenue l'une des villes les plus peuplées des États-Unis. Dans les années 20, on a même compté jusqu'à une vingtaine de constructeurs automobiles. Il n'était plus que 3 dans les années 30. Et ces constructeurs, vous les connaissez bien, on les appelle les Big Three, ce sont Ford, Chrysler et General Motors. La situation de Détroit commence à se dégrader à partir des années 60, avec comme point de départ des émeutes raciales qui sont brutalement réprimées par les forces de l'ordre. Ces émeutes ont fait fuir une partie de la population blanche vers les périphéries, ce qui a entraîné le déplacement d'une partie des richesses vers les marges de Détroit. Sur le segment automobile, parallèlement, les constructeurs américains ont eu du mal à résister aux constructeurs japonais et aux constructeurs allemands sur le segment des berlines de luxe. Les coûts de production des constructeurs américains devenaient bien trop élevés pour qu'ils puissent rester compétitifs. Ce décrochage de l'industrie automobile a provoqué une forte baisse de la population. La crise des subprimes en 2008 a été le coup de grâce pour la ville de Détroit qui s'est même déclarée en banqueroute. De nombreux habitants de Détroit ont été ruinés par cette crise des prêts hypothécaires et ont abandonné leur maison car ils se trouvaient dans l'incapacité de rembourser leur crédit. Ce sont ainsi des dizaines de milliers de maisons qui se sont retrouvées vides et souvent vendues pour une poignée de dollars. Pittsburgh, la Renaissance. La ville de Pittsburgh se situe elle aussi dans la Rust Belt. Entre la fin du 19e siècle et les années 1980, Pittsburgh était appelée la Steel City en raison de sa spécialisation dans les aciéries. Cette activité a pu faire vivre jusqu'à 90 000 personnes dans cette ville. Lorsque l'activité des aciéries s'est effondrée, la ville a perdu près de la moitié de ses habitants en une trentaine d'années. Aujourd'hui, son taux de chômage est de 4,3% et il est bien plus bas que celui d'une ville comme Cleveland. Je tiens à préciser au passage que ce taux de chômage de 4,3% est un chiffre pris avant le démarrage de la crise sanitaire. La ville a orienté ses activités vers les nouvelles technologies et les sciences du vivant. En une dizaine d'années, Pittsburgh a réussi à attirer des étudiants, des entrepreneurs et des chercheurs. Des entreprises telles que Uber, Facebook ou Google y ont implanté des locaux ou des centres de recherche. L'une des universités de la ville a un centre de recherche en pointe sur le sujet de l'intelligence artificielle. Pittsburgh s'est aussi spécialisé dans le domaine des voitures autonomes. Uber y a d'ailleurs installé son centre de R&D pour le déploiement de ses véhicules. Afin de lutter contre la crise économique, l'ensemble des forces vives de Pittsburgh se sont alliées. Les pouvoirs publics sous l'impulsion d'un élu démocrate, les fondations, si importantes en Amérique du Nord, et les universités qui encouragent la création d'entreprises. Alors, ce renouveau ne va pas sans laisser une partie de la population de côté, puisque l'arrivée d'une population diplômée, voire très diplômée, avec des salaires confortables, a contribué à faire augmenter les prix de l'immobilier. Cette augmentation des prix de l'immobilier a eu pour effet de chasser une partie de la population ayant les revenus les plus modestes. Le revers de la médaille, en quelque sorte, d'une ville en pleine reconversion. Et aujourd'hui, la volonté affichée par les élus de Pittsburgh est d'éviter de reproduire un scénario à la San Francisco. San Francisco, où l'ensemble des entreprises des nouvelles technologies ont contribué à chasser une grande partie de la population hors du cœur historique de la ville. Ainsi s'achève cette chronique dédiée à la Rust Belt et aux élections américaines de 2020. Lors de l'élection de 2016, le vote blanc de la Rust Belt a contribué à conduire Donald Trump au pouvoir. Il y a 4 ans, Donald Trump avait promis aux ouvriers du Midwest un grand plan de réindustrialisation qui viserait à redonner ses lettres de noblesse à cette terre industrielle. 4 ans après, on s'aperçoit que le pari de Donald Trump a été largement perdu. La crise du Covid-19 a provoqué la disparition de plus de 700 000 emplois industriels. Il semblerait que pour les ouvriers paupérisés par cette crise, la politique menée par Donald Trump n'a fait qu'aggraver la situation. Joe Biden, de son côté, a fait campagne dans la Rust Belt sur le thème Scranton contre Park Avenue, en référence à la prestigieuse avenue new-yorkaise où Donald Trump possède des appartements. Joe Biden n'a pas ménagé sa peine pour reconquérir un électorat qui avait été méprisé par Hillary Clinton il y a 4 ans. C'est d'ailleurs pour cela que Joe Biden avait donné une intonation social-démocrate à ses discours dans cette partie des États-Unis durant sa campagne. Plusieurs États de la Rust Belt ont effectivement basculé du côté démocrate, même si Joe Biden a perdu son pari dans l'Ohio. Il reste maintenant à voir si dans les 4 années qui viennent, Joe Biden réussira son opération de séduction auprès des cols blancs paupérisés de la Rust Belt. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle escale.